VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour. Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 11 mars 2016, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Michel Joseph. Tout d'abord les titres.
Niger, Amadou, partant pour le second tour de la présidentielle du 20 mars, annonce un de ses avocats.
Au Congo-Brazzaville, 5 candidats de l'opposition ont créé leur propre commission électorale en vue de la présidentielle du 20 mars.
À New York, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, veut une action décisive et audacieuse pour mettre un terme aux abus et à l'exploitation sexuelle imputée au casque bleu.
Le groupe djihadiste État islamique a nettement étendu son contrôle sur le territoire de la Libye, lit-on dans un rapport d'experts de l'ONU publié hier.
Débat hier soir en Floride entre les 4 candidats à l'investiture du Parti républicain. Un débat très différent des précédents.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. L'opposant Amadou, écroué depuis novembre dans une affaire controversée de trafic d'enfants, va participer au second tour de l'élection présidentielle du 20 mars au Niger face au président sortant Mahamadou Issoufou, a annoncé jeudi un de ses avocats à l'AFP. La coalition de l'opposition, COPA, très critique sur le premier tour de la présidentielle, avait déclaré mardi qu'elle avait décidé de suspendre sa participation au processus électoral en cours avant le second tour prévu le 20 mars. Les précisions de Jean-Roger Bion.
La COPA a juste dit qu'elle suspend sa participation au processus, mais Ama est bien partant pour l'élection, a précisé Maître Mossi Boubacar, joint au téléphone par l'AFP. Ama n'a pas dit qu'il va désister, a insisté l'avocat, réagissant ainsi à des propos du président de la Commission électorale nationale indépendante du Niger, la CENI, qui a affirmé jeudi sa détermination à organiser le second tour du scrutin, même sans l'opposition. Nous sommes déterminés à organiser ces élections le 20 mars, donc ce n'est pas le retrait éventuel de Ama Amadou, candidat de l'opposition actuellement emprisonné, qui va nous empêcher et nous avons des délais constitutionnels à respecter, a déclaré le président de la CENI, Boubé Ibrahim, lors d'un point de presse à Niamey. Nous œuvrons pour éviter un vide institutionnel aux conséquences imprévisibles, a-t-il expliqué. Selon M. Ibrahim, rien ne va perturber la tenue du second tour qui aura bel et bien lieu à la date prévue. Du fond de sa cellule, quelle campagne Ama peut-il battre? C'est le challenger qui a empêché de monter sur le ring, a déploré son avocat. Pendant ce temps, Issoufou sillonne le pays en avion et tient partout des meeting escorté par une armada de forces de l'ordre, a-t-il souligné, dénonçant une rupture d'égalité, d'équité et de chance pour son client.
Les signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ont fait état jeudi d'avancées significatives vers la mise en place d'administrations transitoires dans le nord du pays, à l'issue de la 7e session du comité de suivi de l'accord.
Ces administrations intérimaires dans les 5 régions administratives du nord, composées de représentants de l'État, des groupes armés pro-gouvernementaux et de l'ex-rébellion, pour gérer pendant une période transitoire de 6 mois les collectivités locales, devaient en principe être instituées dans les 3 mois suivant la signature de l'accord en mai-juin 2015.
Une action décisive et audacieuse est nécessaire pour mettre un terme aux abus et à l'exploitation sexuelle imputés au casque bleu, estime le secrétaire général de l'ONU. Ban Ki-moon exhorte les pays fournisseurs de troupes à réprimer sévèrement de tels actes.
S'adressant jeudi aux membres du Conseil de sécurité, le secrétaire général onusien a dit que de tels abus sapent la confiance placée en l'ONU par les populations qu'elle est censée protéger. La mission de l'ONU en République centrafricaine, la MINUSCA, a enregistré le plus grand nombre d'accusations d'abus sexuels et d'exploitation, 22 en 2015 et plusieurs en 2016. En dépit de la politique de tolérance zéro instaurée par le secrétaire général de l'ONU, le nombre de cas continue d'augmenter.
Ban Ki-moon a demandé aux pays fournisseurs de casques bleus de traduire rapidement les coupables en cour martiale et de recueillir les ADN des suspects. Il a appelé à des enquêtes rapides allant de 3 à 6 mois et, dans le cas de casques, au versement de leurs soldes dans des fonds de compensation de victimes. Les États-Unis ont pour leur part soumis au Conseil de sécurité un projet de résolution prévoyant de rapatrier des contingents entiers de casques bleus soupçonnés d'abus sexuels. L'ONU l'a déjà fait pour des unités de la RDC déployées en RCA.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe djihadiste État islamique a nettement étendu son contrôle sur le territoire de la Libye, ce qui a contribué à accroître la demande de matériel militaire, indique un rapport d'experts de l'ONU publié jeudi.
Le rapport souligne qu'à Sirte, sa principale tête de pont en Libye, l'État islamique a recruté avec succès parmi les communautés marginalisées depuis le renversement du régime de Muammar Gaddafi.
David Cameron a été distrait par d'autres choses. Nicolas Sarkozy voulait se mettre en avant. Le président Barack Obama décoche dans une interview quelques critiques aux dirigeants ou ex-dirigeants européens sur l'intervention militaire en Libye de 2011, rapporte l'AFP.
En effet, dans un entretien publié jeudi par le magazine The Atlantic, M. Obama revient sur les conditions dans lesquelles une coalition conduite par la France et la Grande-Bretagne, relayée par la suite par l'OTAN, a mené en 2011 des raids aériens en Libye qui ont conduit à la chute du régime de Muammar Gaddafi. Depuis, l'État libyen s'est effondré, les milices rivales se disputent le pouvoir et l'organisation État islamique, on vient de le dire, a profité de la situation pour monter en puissance.
La Libye est plongée dans le chaos, constate le président Obama. Lorsque je me demande pourquoi cela a mal tourné, je réalise que j'étais convaincu que les Européens, étant donné la proximité de la Libye, serait plus impliqué dans le suivi, affirme M. Obama.
Et le Premier ministre britannique David Cameron a ensuite été distrait par d'autres choses, explique-t-il. Le président français Nicolas Sarkozy voulait claironner ses succès dans la campagne aérienne alors que nous avions détruit toutes les défenses anti-aériennes, dit-il encore.
Présidentielle américaine de novembre, les quatre derniers candidats à l'investiture du Parti républicain ont eu hier à Miami, en Floride, leur dernier débat avant leur prochain grand rendez-vous le 15 mars. Ce mardi-là sera marqué par cinq primaires et un caucus dans des États clés comme la Floride, l'Illinois et l'Ohio qui pourraient donner une avance insurmontable au favori Donald Trump. Les derniers sondages donnent Trump en tête en Floride, suivi de Marco Rubio, le sénateur de cet État, Marco Rubio, et de Ted Cruz, sénateur du Texas. Il mène aussi, je parle de Donald Trump, dans l'Ohio, dont John Kasich, un autre adversaire, est le gouverneur. À noter que le débat d'hier soir était moins houleux que les précédents, et c'était surtout à cause de l'absence d'insultes. Et puis, il y avait accord généralement sur l'économie, le commerce, l'immigration et l'éducation.
Dans le nord-est des États-Unis, une chasse à l'homme est lancée pour retrouver au moins deux suspects au lendemain d'une fusillade qui a fait cinq morts lors d'un barbecue en Pennsylvanie. Des détails avec John Linden.
La police a lancé un appel à témoins dans la recherche d'au moins deux individus. Ils sont soupçonnés d'avoir tiré dans le jardin d'une maison de Wilkinsburg, près de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Selon la police, les assaillants sont venus à pied, mais on ne sait pas comment ils ont quitté les lieux. Des voisins ont dit avoir entendu entre 30 et 40 détonations dans cette localité de 16 000 habitants. Un important dispositif de sécurité a été déployé. Les cinq victimes sont toutes noires, trois femmes et un homme ont été tués sur le coup et une femme est décédée à l'hôpital. Parmi les trois autres blessés, deux hommes se trouvent dans un état grave. Les armes à feu font près de 30 000 morts par an aux États-Unis. Cette toute dernière tuerie va certainement relancer le débat sur le droit des Américains à posséder une arme.
Merci John. Alors je rappelle que Ama Amadou est partant pour le second tour de l'élection présidentielle au Niger. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP son avocat. Il a dit « La COPPA avait décidé de suspendre sa participation au processus électoral en cours. » Eh bien, son avocat dit que la COPPA a juste dit qu'elle suspend sa participation au processus, mais Hama est bien partant pour l'élection. Et c'est ce qu'a dit donc M. Mossi Boubacar, joint au téléphone par l'AFP. Hama n'a pas dit qu'il va désister, a-t-il répété.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La minute éco, John Linden.
Commençons par la Côte d'Ivoire, où la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle Ivoirienne a rendu public l'avis d'un appel à concurrence pour la distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision en Côte d'Ivoire. Trois nouvelles sociétés sont autorisées, le chinois Star Times et deux sociétés ivoiriennes, à savoir Aquaba Télé SA et TVcom Côte d'Ivoire. Ces sociétés entreront en concurrence avec le bouquet de Canal+, seul autorisé jusqu'ici. Pour chacune de ces trois sociétés, la condition préalable à cette autorisation était le dépôt d'une caution de 100 millions de francs CFA. Au Cameroun, la production pétrolière s'est établie à 34,9 millions de barils en 2015, selon les données de la Société nationale des hydrocarbures qui gère les intérêts de l'État dans ce domaine. Ce chiffre est en hausse de plus 27% par rapport aux 27,5 millions de barils de l'année précédente. Cette embellie de la production ne se reflète cependant pas dans les recettes. Le secteur enregistre une baisse de ses revenus du fait de la chute des cours du baril durant l'année écoulée. La société Uber prévoit de s'étendre en Tanzanie, en Ouganda et au Ghana cette année et mettra l'accent sur les chauffeurs des taxis traditionnels en essayant de les convaincre de travailler pour elle. Mais parmi les défis qui attendent Uber en Afrique, il y a notamment les routes encombrées, le taux de criminalité parfois élevé et le peu d'utilisation des cartes de crédit.
Les sports à présent avec Eric Manirakiza. En football, Eric, Pelé va vendre aux enchères publiques une partie de sa collection personnelle.
La légende brésilienne du football Pelé va mettre en vente aux enchères à Londres en juin prochain plus de 2000 objets, trophées et souvenirs amassés durant sa glorieuse carrière, a annoncé hier la société de vente aux enchères américaine Julian's Auctions. Les recettes de la vente, présentées comme sans précédent, pourraient dépasser le million de dollars Idrissa. Elle aura lieu du 7 au 9 juin à Londres et couvre toutes les étapes de sa carrière, de son premier contrat avec Santos en 1956 à son engagement caritatif. Parmi les objets en vente, le ballon avec lequel Pelé a marqué en 1969 le millième but de sa carrière, dont l'estimation basse est de 40 000 dollars. Ses médailles pour les titres mondiaux 1958, 1962 et 1970, 5 000 dollars chacune. Des maillots, shorts et chaussures portés lorsqu'il était joueur de Santos, de l'équipe du Brésil ou encore du New York Cosmos. J'espère que Idrissa, tu auras à acheter au moins une chaussure.
L'équipementier Head continue de soutenir Sharapova.
Oui, le fabricant de raquettes Head, l'un des principaux sponsors de Maria Sharapova, va continuer de soutenir la Russe malgré son contrôle antidopage positif, annoncé l'équipementier autrichien ce jeudi. La championne est la sportive qui a gagné le plus d'argent en 2015 avec près de 30 millions de dollars de revenus, dont plus des trois quarts en revenus publicitaires, selon le magazine américain Forbes, pour une fortune estimée à 200 millions de dollars.
Europa League, Séville, quitte Bâle sans conclure.
Le FC Séville, double tenant du titre, a encore tout à fait pour se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League, après n'avoir rapporté que le match nul 0 but partout de Bâle, malgré sa domination hier en huitième de finale aller. En revanche, Dortmund surclasse Tottenham, vainqueur 3-0, grâce à un but d'Aubameyang, suivi d'un doublé de Reus hier en Allemagne. Enfin, avec toi, Idrissa, les résultats de la NBA.
Alors, Cleveland a battu les Lakers 120-108, Toronto a battu Atlanta 104-96, Denver, une victoire sur Phoenix 116-98 et San Antonio a battu Chicago 109-101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Maintenant, nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, 5 candidats de l'opposition, Pascal Sati Mabiala, André Okombi Salissa, Guy Brice Parfait Kolela, Claudine Mounari et Jean-Marie Michel Mokoko ont créé leur propre commission électorale, dénommée Commission technique des élections. L'objectif étant de disposer des résultats issus des bureaux de vote avant qu'ils ne soient traités par la CNE, la commission officielle. On signale aussi la création par des jeunes de Brazzaville d'une application Congo 2016 qui diffuse l'information électorale. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Nguela Ngusu.
Selon Jean-Baptiste Boubutou Bemba, porte-parole de l'IDC, cette commission électorale est un contrepoids de la CEI officielle en laquelle ils n'ont pas confiance. Cette commission électorale de l'opposition, précise-t-il, ne publiera que les résultats issus des bureaux de vote.
Cela signifie tout simplement que nous aurons, nous aussi, à collecter les résultats après le vote, qu'une fois qu'il y a eu le décompte des votes dans les bureaux de vote, il y a les procès-verbaux qui sont automatiquement affichés à chaque bureau de vote. C'est une disposition législative qui a un caractère impératif. Si nous avons mis en place cette commission technique électorale, c'est pour que le vote des Congolais ne soit pas volé. C'est le contrepoids de la CNEI que nous ne reconnaissons pas, parce que nous savons bien les dérives de cette institution qui est un instrument formaté pour les besoins de la cause du pouvoir actuel.
Dans le même souci d'apporter de l'information électorale aux populations, des jeunes développeurs congolais ont créé une application Congo 2016. Rajil Vembe en est l'un des créateurs.
D'abord, pour avoir accès à l'application, il faudrait la télécharger. On la télécharge sur la Play Store. Vous y allez, vous lancez la recherche Congo 2016, vous aurez le lien de l'application, vous pourrez la télécharger. On a accès à l'actualité autour du candidat. Ce que le candidat a dit, quel est son projet de société, de quoi il parle. Mais toutes ces informations-là sont issues des médias qui existent déjà. Alors, je suppose que le 20 mars, il y aura plus d'informations, il faudra faire plus de tri, il faudrait savoir spécifiquement quelles sont les informations cohérentes et quelles sont les informations qui ne sont pas des intox.
Pour estimer Sanza, l'application 2016 ne publiera que les résultats officiels, ceux du ministère de l'Intérieur.
Oui, nous allons diffuser les résultats officiels parce que nous nous appuyons sur des données existantes. Le travail que nous faisons, c'est juste de la veille et choisir des informations venant de sources cohérentes et fiables.
Il y a quelques mois, les acteurs politiques congolais s'étaient tous engagés à Sibiti et à Diata à améliorer la gouvernance électorale dans le pays. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Burundi, la commission Vérité et Réconciliation, après l'ouverture officielle par le numéro 1 burundais vendredi dernier, a déjà commencé ses travaux. Elle s'est entretenue avec les étudiants des universités publiques et privées de Bujumbura et Ngozi. Mais cette commission démarre ses travaux alors que la loi qui protège les commissaires, les journalistes et les témoins n'a pas encore été adoptée par le Parlement burundais. Pour un président d'un parti de l'opposition burundaise qui n'a pas encore quitté le pays, cette commission n'est pas véritablement indépendante car elle a fait semblant d'oublier le volet judiciaire. C'est ce que nous signale de Bujumbura notre correspondant Christophe Kurunziza.
Dans une conférence de presse jeudi avec les autorités burundaises, des questions ouvertes ont été posées au secrétaire général de la commission Vérité et Réconciliation, Clotilde Niragira. La secrétaire générale de la commission affirme qu'une campagne d'explication des travaux de cette commission a commencé dans les universités de Bujumbura, Gitega au centre du pays et Ngozi au nord. Pourquoi est-ce que la commission Vérité et Réconciliation a déjà démarré ses travaux sur terrain alors que la loi sur la protection des témoins n'est pas encore adoptée, Clotilde Sud Niragira.
Le projet de loi est en train d'être analysé par le Parlement pour qu'elle soit ensuite promulguée le plus rapidement possible. Et dès que la loi sera promulguée, la commission vérité et conciliation sera à l'œuvre justement pour sa mise en application, sa mise en exécution, notamment en préparant des programmes, des politiques qui visent la protection des victimes et des témoins. Mais elle va également voir comment protéger tous les acteurs qui seront ensemble avec la commission vérité et conciliation, les journalistes, les membres même de la commission vérité et conciliation.
Mais pour Charles Ndi-Tidje, président du parti de l'indépendance Uprona, Union pour le Progrès National, non reconnu par les autorités, sans le volet justice, cette commission vérité et conciliation va amnistier des criminels et des génocidaires.
Pour nous, c'est un non-événement dans un pays meurtri par des crises à connotation génocidaire. Il y a un pilier extrêmement important, c'est celui de la justice. Cette loi a complètement occulté la dimension judiciaire. Il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix sociale si cette dimension justice n'est pas présente dans ce mécanisme. C'est plutôt pour nous un moyen d'occulter la vérité parce que les gens ne diront pas la vérité dès lors qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la justice de réparation par rapport au forfait au Bounouliaï des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont inamnistiables et imprescriptibles.
Cette commission vérité et réconciliation est composée de 11 membres. La secrétaire générale de cette commission vérité et réconciliation indique que les réfugiés, les Burundais vivant à l'étranger seront consultés si les moyens financiers le permettent. L'accord de paix d'Arusha signé en août 2000 avait prévu une commission vérité et réconciliation chargée de mettre à jour les crimes et atteintes aux droits de l'homme commis au Burundi depuis l'indépendance jusqu'en 2008, année où le parti Front National de Libération d'Agathon Gwasa, aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale, avait déposé les armes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Insécurité au Sahel, le tourisme a beaucoup chuté dans la région depuis quelques années. Les touristes ont déserté des pays comme le Niger, considérés comme à risque. Et les professionnels du tourisme en souffrent, notamment les artisans, qu'a rencontré l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pinault.
Les coups de marteau résonnent sur le fer encore chaud que bat le forgeron. Dans cet atelier, on fabrique des chaises, des tables ou encore des lits. Bienvenue au village artisanal Wadata de Niamey, qui regroupe une centaine de professionnels. Ici, on trouve de tout, des chaussures, des tissages et de la bijouterie. Aboubakar Jibo est originaire de Tawa. Il nous explique les 21 croix Touareg qui existent au Niger.
Croix d'Agaraz, croix de Tawa, Ingal, Indabangarad, Chimia, Barchakaya, Abala Kabilima, tous les gens de Touareg. Les croix, on fait ça en argent, on fait ça en nickel, on fait ça en bronze. On fait ça même comme un cuivre.
Les artisans se sont regroupés en coopérative pour mieux décrocher les financements des partenaires internationaux au développement. Dans les ateliers, des adolescentes et quelques garçons font de la couture dans le cadre de la formation dispensée au village. Mahaman Sani Sidji est le secrétaire comptable de la coopérative du village artisanal.
Ici, c'est un atelier de formation en couture. Donc on amène des jeunes filles et garçons qui ont été renvoyés de l'école ou bien qui n'ont même pas été à l'école. Donc on les amène ici en formation. Donc on les apprend la couture.
Aucun touriste à l'horizon lorsque VOA Afrique a visité le village artisanal. Les temps sont durs depuis 5 ans au Niger. Le tourisme est en chute libre, comme le reconnaît Moussa Ibrahim, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger.
C'est vrai, si on regarde les chiffres d'affaires, ils ont baissé. Pour dire que l'artisanat nigérien se porte bien, là, je vous aurais menti. On a beaucoup de problèmes par rapport à l'écoulement de nos produits artisanaux. 45% de baisse de chiffre d'affaires depuis 2010. Maintenant, pour pouvoir vendre nos produits, il faut aller à des foires et expositions à l'étranger. Et ça, ça coûte cher.
Pour Ali, le maroquinier, le contexte électoral et l'incertitude ne favorisent pas non plus. la reprise des activités.
Bon, pour l'instant, vraiment, ça tourne un peu au ralenti, compte tenu de la situation du pays, comme nous sommes dans une période électorale. Donc, il y a moins de clients, mais on espère vraiment, après tous ces kahikahas, là, après, il y aura du monde qui va venir s'intéresser à ce que nous faisons.
Les artisans du Niger espèrent surtout que les pays occidentaux, notamment la France, arrêteront de placer Niamey ou Agadez sur la liste des destinations à risque pour les enlèvements par des groupes terroristes. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger, à Niamey, 24 heures sur 24, sur 102.5 FM.
Au Kenya, les groupes terroristes Al-Shabaab et État islamique continuent d'attirer deux jeunes musulmans. Mais la résistance s'installe. Une organisation a lancé un programme de déradicalisation visant les jeunes qui en ont été affectés, aussi bien que la formation des imams. Pour la Voix de l'Amérique, Lenny Rouvaga s'est rendu à Pouamni, près de la capitale Nairobi. Son reportage est relaté ici par Jacques Aristide.
Rana Danoula s'entretient avec deux jeunes hommes radicalisés par l'extrémisme. Son rôle est de les extirper de ce piège, car justement, Ola est le directeur du programme Renforcer la résilience face à l'extrémisme violent, Brave en sigle en anglais. Le programme a atteint 2000 jeunes Kenyans. Certains le suivent sur décision judiciaire, d'autres de leur propre chef. Les imams en bénéficient également. Ils ont droit à 4 jours de formation pour mieux les aider à contrecarrer le message des radicaux. L'une des annonces du programme a attiré l'attention à l'échelle nationale.
En Somalie, les terroristes tuent les musulmans. Au Kenya, ils cherchent à tuer des non-musulmans pour créer l'animosité entre les religions. Mandera, 22 décembre 2015, des Kenyans musulmans ont protégé des Kenyans face aux attaques des extrémistes. Ces braves Kenyans ont sauvé des vies. Ils ont protégé leurs voisins.
La mosquée Riyada se trouve à Pumwani, à la périphérie de Nairobi. En 2013, un rapport de l'ONU a lié l'un de ses responsables avec le financement du terrorisme. L'imam Aizadine Omar est attaché à cette mosquée depuis 5 ans maintenant. Le programme Brave l'aide à repérer ceux faisant montre de penchants extrémistes.
Pour que ces jeunes acceptent d'être déradicalisés, cela prend du temps et il faut le faire étape par étape. La tâche est difficile pour ceux qui sont radicalisés à l'extrême, mais par la grâce d'Allah, nous y parvenons au bout du compte.
Abdul Mwangi est l'un de ces jeunes, appelé par des prédicateurs radicaux à se lancer dans le djihad, la guerre sainte. Une idée qu'il répugne aujourd'hui après avoir passé par le programme Brave.
On nous a fait comprendre le vrai message des extrémistes. Ce que je peux dire à mon nom et au nom d'autres jeunes comme moi est que si vous me citez quelque chose du Coran, oui, je vais l'accepter. Mais si, ce faisant, vous me demandez de faire quelque chose, j'irai moi-même voir ce que le Coran dit ou les hadiths ou d'autres livres qui sont cités.
Jusqu'à présent, Brave a formé environ 150 religieux et imams, mais beaucoup de meurtres à l'écart par crainte de représailles. Pour des observateurs, les causes profondes comme le chômage doivent également être prises en compte.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.